Eh bien, bonsoir à tous et à chacun. C'est ma joie de vivre ici à Altenkendorf ce 8e rendez-vous. Bientôt, nous serons à 10. Et à partir de 10 rendez-vous, il y a des réductions, je crois. Voilà, mon épouse aurait bien aimé refaire le voyage puisqu'elle m'accompagnait il y a 2 ans. Mais il y a de la concurrence. Nous avons aussi un week-end spécial dans notre église, d'une part, et puis d'autre part, dans 2 semaines, elle m'accompagnera pour un autre voyage. Alors il y a des choix à faire. Ce n'est pas toujours facile. Elle est en tout cas avec nous, en affection, cela va de soi, et dans la prière aussi. Nous allons lire ensemble un premier texte, une parabole enseignée par Jésus, racontée par Jésus, Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Nous lirons les 16 premiers versets. Les 16 premiers versets, la parabole dite des ouvriers. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, ce qui était un bon salaire, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e et fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. »« Allez aussi à ma vigne, » leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers, paie-leur le salaire. » En allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers. » Et les premiers seront les derniers. Quelle doit être l'attitude du disciple de Jésus-Christ vis-à-vis du travail et dans le travail? Quel sens doit-il lui donner? Précisons d'emblée qu'il n'y a pas dans la Bible ce que l'on pourrait appeler une doctrine élaborée qui va donner toutes les réponses possibles et imaginables à nos questions sur le travail. « C'est en réalité à partir de textes isolés tout au long des Écritures que nous devons dégager en quelque sorte un enseignement valable pour tous les temps. Et nous allons, d'ici dimanche, dégager ensemble un certain nombre de principes spirituels et pratiques pour le disciple de Christ. Donc nous n'allons pas, durant ces soirs et dimanches matins, répondre à toutes les situations personnelles détaillées qui peuvent se poser, soit à nous ou à quiconque. Mais nous allons voir certains grands principes importants, chaque situation ensuite devant être analysée à la lumière de ces grands principes. Nous devons d'ailleurs aussi nous souvenir que le contexte culturel d'Israël ou d'autres peuples d'une époque ancienne n'est pas du tout le même que le nôtre. Et donc qu'il faut aussi faire très attention dans l'application d'un certain nombre de textes auxquels nous ferons allusion. Alors pourquoi une telle réflexion? Parce que l'attitude de nos contemporains à l'égard du travail a beaucoup changé sur très peu de temps. Elle est en train de changer radicalement et nous allons analyser aux certains grands courants d'attitude actuelle vis-à-vis du travail. Mais ce que je voudrais souligner d'abord ce soir, c'est la grande tentation pour le disciple de Christ de diviser sa vie en deux parties et de considérer l'une de ces deux parties comme étant spirituelle, comme ayant une certaine valeur aux yeux de Dieu, les réunions, les cultes, la communion fraternelle, tout ce qui a très directement une connotation fortement spirituelle d'église, et puis de l'autre côté, une partie profane, avec le travail, qui est considéré un petit peu, si vous voulez, simplement comme une triste nécessité en vue de gagner sa croûte. Une sorte de mal nécessaire, mais en fait, du temps perdu pour Dieu. Un boulet à traîner, stérile, une partie de sa vie pendant laquelle on a un petit peu quand même à quelque part l'impression de vivre sans Jésus-Christ. Quand on réfléchit, certains d'entre nous pourraient se dire que, en tout cas, au moins un tiers de leur vie est apparemment gâché. C'est précisément ce tiers de la vie qui va être, et c'est un minimum, qui va être consacré au travail. J'ai sous les yeux le tableau récapitulatif de l'emploi du temps, c'est pas en France, c'est dommage, mais c'est intéressant quand même, d'un Américain moyen. Écoutez ça, c'est intéressant. Parvenu à l'âge de 75 ans, il a consacré 26 ans, 312 jours et 18 heures à dormir et à s'habiller. Il a passé 21 ans, 25 jours et 14 heures à travailler. Boire et manger lui ont pris 5 ans, 356 jours et 14 heures. Il a voyagé durant 3 ans, 273 jours et 16 heures, sauf s'il est itinérant comme moi. Ses vacances auront duré 4 ans, 12 jours et 16 heures, mais il aura dû attendre bien souvent et bien longtemps, attendre l'autobus, faire la queue au cinéma ou en d'autres lieux, 5 ans, 302 jours et 5 heures. Et les statistiques aux USA affirment encore que l'Américain moyen passe 13 jours de sa vie à se moucher, 4 jours à bâiller, 1 jour et 22 minutes à avoir le fou rire, sauf lorsqu'on appartient à Toronto, et 140 jours à se raser, au sens propre du terme. Oh, nous aurions pu passer une partie de la soirée à évoquer toutes les conceptions de la vie et du travail qui sont l'héritage acquis depuis des siècles et des siècles à travers le monde grec, par exemple, ou le monde oriental, mais je ne vais pas m'arrêter là-dessus, ou simplement le monde catholique, médiéval, où, vous le savez peut-être, la manière la plus noble de travailler, c'était d'être dans un monastère ou dans un couvent. Et où le travail directement avec ses mains tout à fait profanes était quelque chose d'assez déconsidéré. Alors nous traînons là aussi avec nous une quantité de reliquats qui nous viennent de vieilles conceptions qui donnaient à la vie spirituelle une valeur énorme et qui plaçaient tout à fait le travail complètement à la queue dans toutes les valeurs. Déjà dans l'Empire gréco-romain, le travail n'était pas pour les élites. Le travail, c'était bon pour les esclaves, n'est-ce pas? Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je ne voudrais pas trop développer ces aspects-là ce soir. Je voudrais surtout évoquer ce soir avec vous le problème de la contestation du travail et ses causes. Pendant des siècles, le travail a représenté une valeur morale, un devoir sacré, une vertu, surtout dans les pays de tradition chrétienne. Et je crois même que les régions de l'Est, y compris l'Alsace, ont sur ce plan un héritage particulièrement fort. Je me souviens d'un passé encore récent où on avait une dimension de culte du travail qui était très 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 forte en Alsace. Tout cela est contesté de plus en plus fortement. Il y a un mépris, une dévaluation du travail. Nous sommes dans une civilisation dite hédoniste, une civilisation de plaisir, on attache beaucoup d'importance au plaisir. Et j'aimerais ici souligner que je ne suis pas du tout certain que le chômage revalorise le travail dans son essence, dans son sens profond. Le travail n'a pas de valeur en soi actuellement, très souvent. Il est essentiellement un moyen de gagner de l'argent. Là aussi, j'ai relevé avec beaucoup d'intérêt cette anecdote concernant la République de Saint-Marin qui a frappé, il y a déjà un certain nombre d'années, une nouvelle pièce de monnaie. Et sur une face de cette pièce de monnaie figurent ces armoires stylisées. Et sur l'autre sont honorés les différents types d'amour classés selon la gamme que voici. On part des pièces ayant la valeur la plus élevée, la pièce de 500 lire, qui annonce l'amour de la liberté. Elle est symbolisée par un goéland survolant une clôture de barbelés. Puis vient la pièce de 100 lire qui symbolise l'amour entre les races. Puis celle de 50 lire, l'amour de la patrie, celle de 20 lire, l'amour de l'humanité, celle de 10 lire, l'amour de la collectivité à laquelle on appartient, celle de 5 lyres, l'amour de la famille, celle de 2 lyres, l'amour entre époux, et celle de 1 lyre, l'amour du travail. Intéressant. L'amour du travail. J'ai aussi sous les yeux un tableau qui est le résultat d'une enquête auprès de 1272 jeunes Français. Elle n'est pas récente, mais c'est une enquête qui a été faite auprès du même échantillon au point de vue nombre de jeunes. Tout d'abord en 1968, une année cruciale, et 1978, et la situation s'est bien dégradée encore depuis. Voici une liste de mots. Quels sont les 2 mots qui, dans cette liste, symbolisent le mieux votre idée du bonheur? Je remarque qu'au 2e rang, en 1968, figurait le plaisir, qui représentait 14% de réponses, la liberté étant largement en tête. Le plaisir est toujours resté au 2e rang, toujours précédé largement de la liberté, mais 10 ans plus tard, le nombre de jeunes qui vont dans cette direction est déjà monté à 26%. Le travail figure bien plus loin, en 9e ou 10e position. En 1968, 15% considéraient que le travail avait une connotation de bonheur. Donc 10 ans, 11 ans plus tard, 8% seulement. Et la situation a largement continué à se dégrader dans ce domaine. L'homme n'est pas fait pour travailler. La preuve, c'est que ça le fatigue. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Oh, il y en a un certain nombre comme ça. Le travail, c'est la santé. Ah non, j'attendais cela. Ne soyons pas égoïstes, laissons-le aux autres. C'est un peu plus haut. Alors maintenant, j'ai le grand classique de notre ami Bruno Moisan. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. C'est comment la suite? Font pas de vieux os, oui. Ça continue, hein. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés, excusez-moi, hein, quand elles commencent. 1 mois plus tard, ils sont costauds, mais faut reprendre le boulot. Dire qu'il y a des gens en pagaille qui courent sans cesse après le travail, moi, le travail me court après, il n'est pas prêt de me rattraper. Vous voyez que mes lettres sont très élevées, hein. Voilà ce qui figure sur une affiche placardée sur un panneau d'annonce. Nous demandons au personnel de trouver, si possible, entre le début et la fin de la journée, sans que cela empiète sur le temps du déjeuner, du café et les autres moments de repos, de discussion, de vente de billets de théâtre ou de cinéma, d'élaboration de projets de vacances ou d'entretien sur les émissions de télévision de la veille, quelques instants à consacrer à une pause travail. Une telle exigence peut paraître excessive, mais pourrait favoriser la stabilité de l'emploi de chacun et l'obtention régulière de salaire en fin de mois. Si cela peut vous inspirer. Alors, quelles sont les sources de cette contestation diffuse du travail? Eh bien, disons-le, pour beaucoup de nos contemporains, le travail est dépourvu de sens. Et c'est en particulier le résultat de l'avènement de la machine. Quand j'entendais tout à l'heure le court extrait de dictionnaire, ça me laissait un petit peu rêveur. Parce que, hélas, qui dit développement du capitalisme dit aussi avènement d'une ère qui a été celle de la machine, où l'homme n'est la plupart du temps qu'un tout petit rouage dans un grand système. J'ai sous les yeux un tableau très intéressant qui indique le rapport travail-homme-machine. En 1850, la part de l'homme dans le travail était de 15%, la part des animaux de 79% et la part de la machine de 6%. Un demi-siècle plus tard, en 1900, la part de l'animal baisse déjà à 52%, la part de la machine monte à 38%, et puis ensuite, et la part de l'homme donc est à 10%. 1930, la part de l'homme est à 4%, la part de l'animal est à 12%, la part de la machine est à 84%. Et ensuite, 1960, l'homme est tout petit, 3%, l'animal est à 1% en 1960, et la machine est à 96%. Alors, il y a les rapports financiers à côté, mais je ne vais pas vous les livrer ici. Alors, écoutez ce témoignage. J'ai eu le privilège de travailler quelques semaines dans une usine d'horlogerie. J'y ai vu des machines à deux jambes et des machines en acier. J'y ai rencontré un homme qui travaillait depuis 14 ans sur le même groupe de 5 machines identiques. Son travail consistait à charger ces 5 machines, c'est-à-dire à placer entre deux petits pitons d'acier 4 platines de montre par machine. À raison de 3 secondes par platine, il se trouvait toutes les 60 secondes devant la même machine. À la fin de la journée, il avait usiné près de 2 400 000 platines. Il savait de quel métal étaient faites ces platines, mais il ne savait pas combien coûtait ce métal, ni qui l'avait travaillé avant lui. Il ne savait pas non plus qui achèverait le travail de ces platines, ni qui vendrait les montres terminées, et à quel prix. Il ne savait ni régler sa machine, ni la réparer. Somme toute, cela l'intéressait fort peu, puisqu'il savait qu'à 11h57 sonnerait la sirène annonçant la fin du travail et qu'il aurait jusqu'à 13h12 pour avaler son repas. Et ceci jusqu'en 1987, voyez sa date, s'il n'y a pas de chômage d'ici là. Alors là, j'ai peur qu'il ait été déçu. Un écrivain oriental qui parle de notre abondance occidentale. Écoutez ça. Vous dites que vos milliers de machines vous épargnent du travail, mais vous êtes toujours occupé. En multipliant vos machines, vous devenez sans cesse plus fatigué, anxieux, nerveux, insatisfait. Quoi que vous possédiez, vous voulez davantage. Et où que vous soyez, vous voulez aller ailleurs. Vous avez une machine pour extraire vos matières premières, une machine pour les travailler, une machine pour les transporter, une machine pour balayer et pousser, une autre pour transmettre vos messages, une pour écrire, une pour parler, une pour chanter, une pour voter, une pour coudre et une centaine d'autres pour faire une centaine d'autres choses pour vous, et vous restez l'homme le plus nerveusement occupé du monde. Vos machines ne sauvent ni le temps ni l'âme. Ce sont autant d'aiguillons qui vous pressent d'inventer encore plus de machines et de faire plus de travail encore. Et cela fait dire à un écrivain évangélique, en fait, l'homme est en train de devenir une machine de plus en plus dans un univers de machines, entraîné par un engrenage complexe et précis dans un cycle inexorable et infernal. C'est Gandhi qui disait « La machine a gagné l'homme, l'homme s'est fait machine, fonctionne et ne vit plus. » Alors nous pourrions évoquer le problème encore plus aigu là où existe la collectivisation, qui touche encore une partie assez importante du monde actuel. Ce n'est plus le cas en Russie, mais j'ai sous les yeux un article à ce sujet qui donne quand même une idée du problème. En mars 1975, 27% de la valeur totale des produits fermiers soviétiques provenait des lopins de terre particuliers qui occupaient moins de 1% des terrains agricoles de la nation. À ce taux, les terres appartenant à des particuliers ont un rendement 40 fois supérieur à celui des terres cultivées collectivement. L'homme, bien entendu, n'est plus motivé de la même manière. Ses outils ne lui appartiennent pas, son travail est parcellaire, il est écrasé par le gigantisme, il n'est plus qu'un numéro, il ne voit pas le fruit de son travail. Autre aspect encore, les dégâts produits par le démon du profit, de la productivité, du rendement, de la rentabilité à tout prix et à n'importe quel prix. Ce climat, loi de la jungle, le plus fort, le plus rusé, celui qui est dépourvu de sentiments va être le gagnant. L'homme, vous le savez, est capable de devenir une bête hideuse, un monstre sans cœur et sans pitié. Et quelle est la réaction ? Eh bien, c'est la désillusion, c'est la perte de la conscience professionnelle et de la conscience tout court. Le travail est vite fait et trop souvent est de plus en plus mal fait. Et une génération s'est levée qui a dit « Mais à quoi bon se fatiguer encore ?» Puisque le travail de nos pères a amené avec lui la pollution, l'épuisement des richesses naturelles, les embouteillages, les dépressions nerveuses, tout sauf l'âge d'or qu'on nous annonçait et le vrai progrès. Nous pourrions ici continuer, mais je ne voudrais pas que vous fassiez une dépression. Alors, essayons de commencer, on commence doucement à envisager le travail, donc la vie professionnelle, à la lumière de la Bible. Avec une grande affirmation. Grande affirmation fondamentale, à savoir que c'est Dieu lui-même qui a appelé l'homme au travail. Et nous avons un texte de base très important dans le début de la Bible, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu a appelé l'homme au travail. L'homme a reçu un mandat de gérant de la création. Il est associé à Dieu dans la mise en valeur du domaine de son Seigneur. Il est collaborateur de Dieu. Et le paradis n'était pas un lieu de farniente. J'ai là sous les yeux une citation très intéressante. Dieu a structuré la vie d'une façon telle que l'accomplissement de ses desseins passe par la coopération des êtres humains. Il n'a pas créé la terre pour être productive par elle-même. C'est le rôle de l'homme de la soumettre et de la faire fructifier. Les fleurs et les fruits du jardin d'Éden ne devait pas s'épanouir tout seul. Dieu désigna le jardinier qui devait cultiver le paradis. Nous aimons cette histoire d'un jardinier qui faisait admirer à un pasteur la beauté de son jardin aux plates-bandes en pleine floraison. Impressionné, le pasteur se répandit en louanges envers Dieu. Mais le jardinier n'apprécia guère de voir que toute la gloire revenait à Dieu. Et il répondit, « Vous auriez dû voir l'état de ce jardin lorsque Dieu s'en occupait tout seul, s'exclama-t-il. » Il y avait du vrai dans cette remarque. La théologie du jardinier n'était pas mauvaise. Sans jardinier, tout jardin dégénère et retourne à l'état sauvage. Puis nous avons un second texte dans Exode 20, versets 9 et 10. Exode 20, versets 9 et 10. Nous pouvons même prendre le verset 8 parce que nous y ferons allusion, peut-être même dans notre étude de conclusion dimanche matin. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Et puis il y a un « mais » qui nous intéressera donc certainement si nous avançons bien dans notre conclusion. C'est un commandement. C'est un commandement, et j'aimerais ici souligner ceci, c'est que l'homme n'est pas seul à travailler. Tout travaille dans la création de Dieu. D'une certaine manière, les astres qui circulent, les marées, les vents, les nuages, les plantes, les animaux, à un niveau beaucoup plus élevé, tout le monde des anges, et puis Dieu lui-même. Dieu lui-même travaille. La Bible est tout entière constellée de passages qui évoquent tout le travail de Dieu, et j'ai relevé avec beaucoup d'intérêt cette possibilité de traduction d'un verset que nous connaissons bien, Romains 8, 28, « Toutes choses coopèrent ensemble, ou concourent, mais plutôt coopèrent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et un commentateur de dire ceci, mais la traduction suivante est préférable. Nous savons que Dieu travaille en tout, pour le bien de ceux qu'il aime. Et c'est effectivement une possibilité de traduction du texte, je le relis. Nous savons que Dieu travaille en tout pour le bien de ceux qu'il aime. Et le commentateur ajoute, en effet, ce ne sont pas les choses qui s'organisent pour former un cadre favorable. C'est Dieu qui travaille en tout, y compris dans les souffrances et dans les gémissements, pour le bien de ceux qu'il aime et qui sont appelés selon son dessein. Christ a travaillé sur la terre et il a même aussi travaillé de ses mains. Et je pense que quand le Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve tout mon plaisir », et le plaisir de Dieu était aussi dans la qualité, dans la beauté, dans le sérieux du travail de son Fils. Et même à l'époque où il était l'aide de son Père dans l'atelier de Nazareth. Tout travail. Et puis, intervient dans l'histoire de l'humanité la chute. Et ici aussi, il faut lire simplement ces passages du résultat de la chute ou des résultats en cascade de la chute dans Genèse 3 au verset 17. Genèse 3, 17, il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Et au verset 23, l'Éternel Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Voilà donc le châtiment de Dieu à cause du péché de l'homme. Le travail est accompagné de peine, de souffrance. L'homme doit lutter pour gagner sa vie, puis pour mourir. Dans la définition qui était donnée tout à l'heure dans le dictionnaire, il y avait cette connotation de souffrance dans le programme du travail. Cela remonte d'ailleurs beaucoup plus haut encore, puisque dans le latin populaire, le tripalium, d'où vient notre mot français « travail », c'était une machine qui était formée de trois pieux et qui servait à maintenir les chevaux difficiles pour les ferrer. C'était très problématique, n'est-ce pas, d'utiliser un tel terme pour évoquer ensuite le travail. D'ailleurs, « tripaliare » voulait dire « torturer ». Et le tripalium est devenu un instrument de torture. Et tout au long du Moyen-Âge, donc, le sens de travail était celui de peiner, de tourmenter, de faire souffrir. Nous avons un mot français qui va exactement dans cette direction, c'est le mot labeur, n'est-ce pas ? Le labour, le labeur, c'est toute une idée de peine, de travail pénible. Et il est intéressant de voir que dans les Écritures, l'apôtre Paul va souvent utiliser une ou deux expressions fortes pour évoquer son travail. Il dira souvent « je peine, je fais des efforts, c'est dur ». On va prendre deux textes, vous allez voir, dans 1 Thessaloniciens 2, 2-9, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9, où il est dit, vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Bien, les deux mots qui sont utilisés ici dans le texte original, tous les deux ont une forte connotation de travail pénible. Les deux mots, le premier évoque directement un travail très pénible, et le deuxième évoque un travail très fatigant. Dans 2 Thessaloniciens 3:8, vous avez à nouveau l'association des mêmes mots, 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, dans le labeur, labour, et dans la fatigue. Et c'est incroyable de voir le nombre de fois où dans le Nouveau Testament, ce sont des termes à forte connotation, donc de fatigue et de peine, qui sont utilisés. Donc, depuis la chute, l'homme reste donc chargé d'accomplir une œuvre, mais cet accomplissement sera accompagné de peine. Et même Thomas Edison, ce grand inventeur, dira que le génie est fait de 1% d'inspiration et de 99% de transpiration. Et je crois que ça c'est applicable aussi dans l'Église de Jésus-Christ, où ceux qui insistent trop sur l'inspiration sont paresseux et en fait sont rarement bien inspirés. À partir de là, dans la mesure où c'est donc Dieu qui, en quelque sorte, institue le travail, nous disons, Bible en main, non à la paresse et au mépris du travail. Et la Bible est très claire, Dieu condamne le mépris ou le refus du travail, par exemple, sous prétexte que celui-ci fatigue. Le refus de l'effort dans une société de consommation, de passivité, de prédigéré, la Bible nous montre que cela est folie. J'ai ici une citation de Luther concernant un texte qui a été parfois abusivement employé dans les Écritures pour justifier la paresse. C'est ce texte de Matthieu au chapitre 6, ces paroles de Jésus concernant la confiance dans la sollicitude d'un Dieu qui prend soin de ses enfants. Vous connaissez ce texte de Matthieu 6, 25 et suivant, ça vaut la peine de le lire parce qu'il s'inscrit tout à fait dans le cadre de notre sujet. Matthieu 6, 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et vous voyez, on peut utiliser les textes de la Bible et leur faire dire n'importe quoi. Et certains croyants qui cultivaient avec un plaisir évident certains poils à un endroit de la main que je ne citerai pas, se sont inspirés de Matthieu 6 pour justifier leur confiance suave et naïve en Dieu, n'est-ce pas? Alors Luther leur répond ceci, « Dieu n'a que faire des goinfres et des paresseux qui se fichent de tout et n'entreprennent rien. Ils agissent comme s'il suffisait de s'asseoir et d'attendre que Dieu leur fasse tomber dans la bouche une oie toute cuite. » Ça, c'est tout à fait dans le style de Luther. Spurgeon, lui, dira ceci, « Dieu nourrit chaque oiseau, mais il ne lui apporte pas la nourriture dans le nid. » L'homme sans travail est une terre en friche. Le travail reste à considérer comme une grâce, car il occupe l'homme. D'ailleurs, c'est pour cela que nous avons lu cette parabole en introduction, qui est centrée sur la grâce. Le travail reste une grâce et un privilège. Il occupe l'homme, il monopolise ses forces qui ne peuvent être occupées en même temps au service du mal, sauf si bien sûr ce travail est un mal en lui-même. Vous connaissez ce verset, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Proverbe 12, 27. Et c'est une des raisons pour lesquelles, c'est vrai, le chômage est un drame, ne fût-ce qu'à cause de cette grâce du travail dont en quelque sorte il semblerait que bien des hommes soient privés. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Je l'ai dit, l'homme sans travail est une terre en friche, gare aux mauvaises herbes, la paresse est mère de tous les vices, et le travail est une force pour lutter contre la tentation. Quelqu'un, dans un ouvrage remarquable, écrit ceci, « Personne ne tient vraiment à être sans emploi, pas seulement pour une question financière. Les effets psychologiques néfastes du chômage montrent que l'estime dans laquelle l'homme tient le travail dépasse la simple récompense monétaire. Le travail assure aussi la dignité, l'identité de la personne, lui donne un but dans la vie. C'est au travail que se révèle ce dont nous sommes capables. Nos talents y sont reconnus, nos aptitudes utilisées. C'est là que nous acquérons le sentiment de notre place dans l'ordre des choses et que nous découvrons ce que nous sommes censés accomplir jour après jour. Le travail est incontestablement un des principaux facteurs d'intégration dans la société. Il oriente notre vie, règle notre temps, nous met en contact avec nos semblables. Être au chômage, c'est être atteint d'une espèce de lèpre sociale. Il est intéressant de voir certaines remarques à ce sujet. Je pense à l'histoire de cette comtesse italienne qui portait toujours sur elle un médaillon renfermant 5 épingles rouillées. Quand on l'a questionnée à ce sujet, elle expliquait que pendant un certain temps, on avait arrêté son mari comme prisonnier politique et on l'avait enfermé dans un cachot froid et sombre. Le silence et l'inaction lui était si pénible que sa santé mentale en était menacée. Et un jour, il trouva dans son linge 5 épingles ordinaires. Et il décida alors d'occuper son temps à jeter les épingles sur le sol et à les chercher ensuite dans l'obscurité. Il recommença la même chose jour après jour. Cela semble un passe-temps bien enfantin, mais c'est ce qui l'empêcha de sombrer dans la mélancolie. Les autres personnes qui étaient au régime cellulaire devinrent folles, mais lui réussit à garder sa raison. L'idiot local était chargé de faire le service de l'eau aux habitants. Un jour enfin, le village se trouva raccordé à la distribution générale. Les gens qui étaient bien braves n'abandonnèrent pas leur idiot, bien que ces services leur fussent désormais inutiles. Chaque matin, il déposait sur sa fenêtre les provisions nécessaires à sa subsistance. Et puis un jour, ils ne le virent plus. Le pauvre idiot s'était pendu. Il n'avait pu supporter de ne servir à rien et de ne plus participer activement, dans la mesure de ses moyens, à la vie collective. Voilà deux exemples allant chacun en sens contraire, mais qui indiquent bien que le travail reste vraiment à considérer comme une grâce. Proverbe 18, verset 9 dit ceci: « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Nous avons le drame de David dans 2 Samuel chapitre 11, versets 1 et 2, au sommet de sa royauté, l'année suivante. Au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba, mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Et c'est comme ça qu'a commencé la chute qui a assombri de manière terrible toute la fin de la vie de ce grand roi. Tout simplement, un état de paresse. Au lieu d'être sur le champ de bataille, à la tête des armées, il faisait la sieste et il a certainement prolongé sa sieste indûment et ça a été l'occasion de fortes tentations. Dans le Nouveau Testament, 2 Thessaloniciens, à nouveau, est intéressant à cet égard. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 6 à 12. 2 Thessaloniciens 3, versets 6 à 12. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être
à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Ou comme le traduira remarquablement la Tome, affairés sans rien faire. C'est bien, hein ? Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement, en travaillant avec calme. Alors, c'est intéressant parce que même l'expression « vivre dans le désordre », le mot qui est utilisé là, était un terme qui était fréquemment utilisé dans les contrats d'apprentissage de l'époque. C'était l'équivalent de notre expression l'absentéisme, s'absenter, ne pas venir travailler régulièrement. Vous voyez, l'absentéisme est là dans les Écritures. Et il faut quand même souligner que derrière cette paresse, cet absentéisme, cette manière de s'occuper des choses futiles, se cache un problème doctrinal. Toutes sortes de mauvaises conceptions concernant le retour de Christ, notamment. Et vous voyez que des mauvaises conceptions, une mauvaise connaissance des Écritures dans le domaine doctrinal peut engendrer des comportements extrêmement problématiques, y compris au niveau du travail. Dans 1 Timothée chapitre 5, autre texte qui nous décrit des états d'oisiveté, il est question des jeunes veuves, et il nous est dit qu'avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Elles parlent à tort et à travers, dira une version. Elles parlent à tort et à travers, elles sont causeuses, bavardes, intrigantes, c'est-à-dire indiscrètes, elles s'occupent de ce qui ne les regarde pas, elles se mêlent de tout. Vous voyez encore une situation là, très très problématique. Vous avez dans les Écritures d'ailleurs de nombreux avertissements quant au problème de la paresse, Proverbe chapitre 6, versets 6 à 11. Proverbe 6, versets 6 à 11. Ça, c'est la Marseillaise biblique sur la paresse. Hein. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies, deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger, paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Donc nous avons vu que le travail était à considérer comme une grâce, car il occupe l'homme, il monopolise ses forces, et nous avons donc considéré le problème de la paresse. Maintenant, disons aussi que le travail, la peine, l'effort, la lutte, pour obtenir quelque chose enrichit. Ce n'est pas la possession d'un objet ou d'une distraction qui enrichit l'homme, mais l'effort qu'il a fait pour l'obtenir. Et souvenons-nous que le refus de l'effort et du combat, c'est aussi le refus de la joie. Je pense à ce texte d'Ecclésiaste 2, 10 à 11. Je relisais le livre de l'Ecclésiaste qui parle pas mal du travail dans le train. Donc Ecclésiaste chapitre 2, versets 10 à 11. « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail et c'est la part qui m'en est revenue. » Et au chapitre 5, et au verset 18, « Si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part, et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. » Donc on peut dire que le travail, avec sa peine, contient ses propres vertus et sert au bien de l'homme. Il va servir au développement de sa personnalité, au développement de son caractère, de la persévérance, de la ténacité. Le travail est une école de caractère. Alors vouloir ne faire de la vie qu'un plaisir continuel, avec le strict minimum de travail, c'est un faux but qui contient les germes de destruction de l'homme. Et c'est important, à l'heure où on parle tellement de réduction de temps de travail de plus en plus, soi-disant pour donner davantage de travail aux chômeurs, mais je pense qu'il y a aussi d'autres raisons qui sont là, cachées au fond du cœur de l'homme, et qui vont dans le sens de ce que je vous dis. Ceci dit, oui, aux efforts pour rendre le travail plus humain. Il est inhumain, dans certaines situations, à cause de la dureté des hommes qui oppriment leurs semblables, comme Pharaon le faisait jadis. Vous avez entendu parler de l'inscription qui figure à l'entrée du camp d'extermination d'Auschwitz, « Le travail libère l'homme ». Et quand on sait que 3 millions de cadavres sont sortis en quelque sorte de ce camp, que le presse-papier du commandant du camp était un crâne humain particulièrement bien formé, cela nous fait d'autant plus de peine de penser à cette inscription « Le travail libère l'homme ». Alors là, dans le passé, on a des descriptions de ce qui se passait autrefois qui sont aussi très impressionnantes. Voici ce que disait un ouvrier en 1832, son témoignage. « J'avais 7 ans quand j'ai commencé à travailler à la manufacture. Les heures de travail étaient de 5h du matin à 8h du soir. Il n'y avait pas le temps pour se reposer et manger dans l'après-midi. J'avais 14h30 de travail. Dans cette manufacture, il y avait 50 enfants à peu près de mon âge. Ces enfants étaient souvent indisposés, en mauvaise santé. C'est à coups de lanières de cuir que les enfants étaient tenus au travail. La principale occupation d'un contremaître était de fouetter les enfants pour les forcer à faire ce travail excessif. Tant de méchanceté et d'hypocrisie dans des pays qui se disaient chrétiens. Les conditions d'hygiène et de nourriture étaient telles que dans les quartiers pauvres, un enfant sur deux ne voyait jamais son premier anniversaire. À travers toute l'Europe, les mêmes scènes de détresse et de misère se prolongèrent jusqu'à ce que, lentement, sous la pression des ouvriers et de responsables chrétiens, les États interdisent les abus les plus criants. Voilà un autre texte intéressant dans un traité sur l'histoire du travail publié par les presses universitaires de France. « À l'ouvrier, rien n'est donné en échange de son travail. Vivre pour lui, c'est ne pas mourir. Son salaire est insuffisant. Sa nourriture se compose de pain et de pommes de terre. La moyenne de sa vie est inférieure à celle des autres classes de la population. La durée de la journée de travail est toujours en moyenne de 15 heures. Le travail des enfants apparaît. On voit des enfants de 6 à 8 ans employés à des travaux simples et faciles, comme la surveillance des machines. Mais ces travaux les obligent néanmoins à une immobilité constante, contraire à leur nature, le plus souvent dans une atmosphère malsaine. On les retient parfois 15 heures et plus à l'usine, on les rudoie, ils s'endorment sur leur ouvrage, les femmes sont aussi employées en grand nombre. » Et en fait, vous savez que ce n'est pas mieux aujourd'hui, on pourrait passer la soirée à évoquer le drame justement de l'utilisation des enfants aujourd'hui, ces manœuvres à bon marché dans quantité de pays au monde, c'est quelque chose d'épouvantable. Et là on peut, dans un sens, se réjouir du travail des chrétiens. Il faut quand même savoir que même si nous ne sommes pas d'accord avec beaucoup d'aspects du syndicalisme d'aujourd'hui, qui est un syndicalisme très partisan, etc., je ne vais pas entrer dans les détails, à l'origine, le syndicalisme était évangélique. Il faut se souvenir que ce qu'on a appelé les trade unions était donc le mouvement syndical anglais, et qui ce mouvement syndical s'est créé dans les milieux qui étaient marqués par le réveil évangélique, le réveil du temps de Wesley, le réveil dit réveil méthodiste. On peut aussi évoquer l'industriel alsacien Daniel Legrand, dont une plaque commémorative figure à l'entrée du Bureau international du travail à Genève. Et cet industriel alsacien avait été à l'origine de tout un effort d'humanisation de la législation pour améliorer les conditions de travail dans les usines, afin qu'il ne soit pas écrasant pour les jeunes, les femmes et les ouvriers d'une manière générale. Les croyants ont beaucoup fait, je dis bien les authentiques croyants, pour essayer de faire changer les choses. Non donc à vouloir supprimer toute peine dans le travail, c'est utopique dans un monde pécheur. Oui à l'amélioration des conditions de travail, mais non à l'attitude de mépris du travail. Le mépris du travail, c'est un mépris de Dieu qui connaît les vertus du travail même depuis la chute, et c'est une forme de rébellion contre un commandement divin. Enfin, peut-être encore un aspect, simplement, souligner l'attitude du travail lorsqu'il est considéré comme une idole, comme une drogue, comme un moyen de fuite. Et c'est vrai que pour certains, leur travail est leur seule raison d'être. C'est une religion à laquelle on finit par tout sacrifier. Santé, famille, amis, Dieu. Et vous savez que dans les cimetières figure parfois l'inscription « Le travail fut sa vie ». Et l'arrêt du travail est un drame pour beaucoup. Je me souviens, quand j'étais responsable d'église en Bretagne, de cet ingénieur qui avait été l'ingénieur responsable de la construction de l'usine marémotrice de la Rance, ce barrage à la frontière bretonne, du côté de Saint-Malo, Dinard, et qui était mort à l'âge de 50 ans. On m'avait demandé de présider à son ensevelissement. Il était enseveli sur une petite île à proximité de la ville où nous travaillons. Et sa famille me racontait qu'en fait, c'était l'arrêt du travail pour des raisons de maladie qui l'avait vraiment précipité dans une dépression profonde d'où il n'était pas ressorti. On peut considérer le travail comme une idole par orgueil. Il est des formes de travail qui valorisent leur auteur. Il devient un petit dieu qui domine la matière, qui s'adore lui-même dans son œuvre. Alors vous avez le cas lors d'un grand potentat, je veux parler de Nebuchadnezzar dans Daniel 4, lorsque au verset 30 il dit « N'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Mais vous avez dans Deutéronome le problème du peuple d'Israël lui-même, Deutéronome chapitre 8, versets 12 à 18, Deutéronome chapitre 8, versets 12 à 18. Un avertissement de la part de Dieu au peuple d'Israël. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, « Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Et ça, vous savez, ce n'est pas seulement le problème du peuple d'Israël, c'est un problème très, très actuel qu'on retrouve dans les églises, à savoir que eh bien, certains croyants font du travail une idole. Ils se valorisent de cette manière, leur niveau de vie augmente. Et peu à peu, ils se refroidissent spirituellement. J'ai là cette parole de Charles Spurgeon qui évoque le danger de la réussite et qui écrit ceci. « Nous avons vu bien des chrétiens avérés, reconnus, faire naufrage. Dans quelques rares cas, leur chute était imputable à une douleur écrasante. Mais 9 fois sur 10, elle l'était à la prospérité. L'on s'enrichit. Et bien sûr, on ne va plus à la petite chapelle où l'on allait avant. Bon, il se peut qu'on aille à l'église où vont les gens élégants. L'on s'enrichit et aussitôt on refuse de rester sur le chemin de l'abnégation où l'on marchait autrefois si joyeusement. On est saisi d'une ambition insatiable et l'on tombe. Et grande est la douleur que cette chute cause à Dieu. Mais un homme en difficulté, un homme qui a failli, voyez comme il prie. Il ne peut plus vivre à présent sans la prière. Voyez comme il lit la Bible maintenant. Il ne se soucie plus de la littérature du monde désormais. Il ne peut plus se satisfaire de chimères et de caprices. Quand un homme a échoué, quand il est brisé et humilié, il voit la vanité du monde et sa récompense. Il ne sert pas le monde de près. Il porte le monde comme un vêtement ample. Désormais, ses pensées sont tournées vers les choses célestes et non plus vers les choses de la terre. Le monde, pour lui, a perdu ses attraits. Dans le prophète Ézéchiel, encore un texte, Ézéchiel chapitre 28, versets 5 et 6, concernant l'attitude de Tyr qui lui a valu son châtiment, Ézéchiel 28, versets 5 et 6, « Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses, et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. » C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je ferai venir contre toi des étrangers, etc., etc. Alors j'aimerais le souligner ce soir en approchant de notre première conclusion. Le croyant n'est pas à l'abri de l'orgueil dans ce domaine. Nous oublions vite que sans la participation de Dieu, notre travail est vain. Notre travail est infructueux. L'homme plante, arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. L'homme construit, mais c'est Dieu qui donne la force. Tout est don de Dieu avec notre collaboration. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, verset 1er. Nous oublions si vite de dire merci au Seigneur et trop vite nous sommes tentés par le travail idole. L'orgueil nous guette et la démobilisation spirituelle nous guette elle aussi à cause de cela. Alors nous allons nous arrêter ici.
Nous reviendrons encore demain soir, sur quelques autres attitudes de l'homme vis-à-vis du travail, pour essayer de voir si ces attitudes ne sont peut-être pas les nôtres. Et puis enfin, nous arriverons donc aux priorités et à l'équilibre dans le domaine du travail. Nous avons essayé déjà un petit peu d'élaguer, de placer des bases et surtout d'essayer de comprendre le problème, les problèmes liés au travail, problèmes du passé, mais problèmes aussi de notre temps. Écoutez cette dernière citation tirée d'un excellent livre sur le travail, La trame du monde. Et dans ce livre, l'auteur dit ceci: le culte idolâtre voué au travail coûte cher. Ceux qui recherchent avidement le succès professionnel, la promotion sociale, laissent souvent derrière eux des mariages brisés, des enfants pleins de ressentiment, des amis laissés pour compte et un Dieu mis sur la touche. Ils se tournent souvent vers l'alcool pour soulager le stress ou la drogue pour éviter l'épuisement. Ils vivent dans l'appréhension constante de l'échec et sont tributaires de l'appréciation des autres. Leur vie est remplie d'inquiétudes et prise dans les mailles de la vanité et de l'hypocrisie. Lorsque l'emploi n'est plus occupé librement comme une façon de répondre à la vocation que Dieu nous adresse, il peut devenir un maître tyrannique et cruel. Il attire l'imprudent dans son temple avec des promesses vertigineuses de succès terrestre, exige toujours davantage de sa part et ne lui donne en retour que peu de choses vraiment et durablement satisfaisantes. Ceux qui se sont dès le début voués entièrement à leur carrière, qu'ils considéraient comme un moyen de se réaliser et de s'épanouir, se trouvent maintenant pris au piège et asservis à un Dieu capricieux et qui ne pardonne pas. Voilà de quoi nous faire réfléchir. Nous voulons simplement terminer dans la prière. Seigneur, merci de ce que tu nous offres durant ces quelques rencontres de réfléchir ensemble à cette part importante de notre vie, qu'est le travail, la vie professionnelle. Seigneur, merci de ce que tu nous donnes dans ta parole, des indications très concrètes pour notre situation aujourd'hui, pour nos besoins. Nous te demandons de nous aider dans les jours qui viennent à dégager ta pensée de l'ensemble de ta parole pour pouvoir vérifier si notre attitude est juste, si notre comportement te glorifie, si la manière dont nous gérons notre temps de travail, notre temps de famille, notre temps de repos, nos relations avec nos collègues, avec notre patron, avec notre clientèle, si tout cela te plaît et t'honore et te glorifie. Merci de nous aider dans cette recherche, dans ce travail ensemble, et merci surtout de nous aider à ajuster nos vies pour que nous puissions te glorifier dans l'activité à laquelle tu nous as appelés. Bénis notre repos, renouvelle nos forces, prépare-nous pour la journée de demain et donne-nous de demain d'avoir à cœur de te plaire dans notre travail. Apprends-nous, Seigneur, à te remercier en considérant le travail comme une grâce de ta part. Donne-nous de savoir être beaucoup plus reconnaissant que nous le sommes. Nous voulons aussi te prier pour ceux qui sont privés de travail, pour ceux de notre connaissance, pour ceux de nos familles qui actuellement sont au chômage, en te demandant, Seigneur, de les aider d'une manière toute particulière dans ce temps d'épreuve qui n'échappe pas, nous le croyons, à ton contrôle, en particulier s'ils sont tes enfants. Merci de savoir que tu as aussi une solution pour ceux qui se réclament de toi et que le premier travail de celui qui ne te connaît pas encore est de se tourner vers toi
pour que tu gères ensuite avec lui sa vie et que tu construises en lui une vie nouvelle qui vaille la peine d'être vécue. Seigneur, nous te bénissons et te remercions parce que tu as, toi, la solution à nos problèmes quotidiens, personnels, dans notre vie professionnelle, familiale, conjugale, personnelle. Nous te bénissons de tout notre cœur pour cela. Nous sommes heureux et reconnaissants d'avoir en toi un Dieu merveilleux qui travaille continuellement, en ton Fils un Sauveur et un Seigneur merveilleux qui travaille lui aussi continuellement en notre faveur. Merci pour le travail de ce monde invisible, angélique, aussi en notre faveur. Nous te bénissons pour cela de tout notre cœur. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.